Merci d'écouter RFI. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel.
RFI Midi, Anne Cantner.
RFI Midi, la suite avec Haïti à la une pour cette demi-heure consacrée à l'actualité du continent américain. Entretien exclusif, le Premier ministre de Transition s'exprime sur RFI. Gary Conney donne des détails sur les missions qui attendent la force multinationale, sur ses ambitions pour le pays. Vous l'entendrez dans moins de 10 minutes, juste après le journal. Nous parlerons également des critiques de plus en plus insistantes chez les démocrates aux États-Unis sur l'état de santé de Joe Biden et sur sa capacité à être candidat pour la présidentielle de novembre. Et puis l'actualité des Outre-mer, Oda Naji Ali, la Martinique panse ses plaies après le passage de l'ouragan Beryl.
Oui, pas de victimes dans le département, mais de nombreux dégâts matériels causés par la houle dévastatrice lundi à Fort-de-France. Le maire veut d'ailleurs lancer de nouveaux travaux pour mieux protéger les infrastructures à l'avenir, vous l'entendrez.
On vous appelle tout à l'heure et nous allons parler, nous, dès maintenant, de cet ouragan dans le journal.
RFI Midi.
Bonjour Gilles Moreau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Cet ouragan Beryl qui poursuit sa course meurtrière dans les Caraïbes.
Oui, un ouragan inédit par son intensité et sa précocité en cette période de l'année. Les vents qui l'accompagnent soufflent à environ 250 km/h. Beryl est attendu à la Jamaïque et dans les îles Caïmans. Après avoir fait plusieurs victimes, dont trois morts à la Grenade, notamment sur l'île de Carriacou. Une île littéralement ravagée, selon Deacon Mitchell, le premier ministre de cet état insulaire des Caraïbes.
To see this level of destruction, it is almost...
L'ampleur de la destruction est comparable à celle d'un Armageddon. Tous les bâtiments, qu'il s'agisse de bâtiments publics, d'habitations ou d'autres installations privées, sont presque totalement endommagés ou détruits. La dévastation est la destruction complète de l'agriculture, destruction totale de l'environnement naturel. Il n'y a littéralement plus aucune végétation sur l'île de Carriacou. Les mangroves sont totalement détruites, les bateaux et les marinas ont subi des dommages considérables. Le réseau électrique de Carriacou est entièrement détruit. L'ensemble du système de communication est complètement détruit. À ce jour, la communication reste un problème majeur.
Traduit par Simon Rosé, c'était Deacon Mitchell, le Premier ministre de la Grenade, à propos de la situation sur l'île de Carriacou. Je le disais pour commencer, c'est un ouragan jamais vu par son intensité et sa précocité. Son profil inquiète les spécialistes, à l'image de Fabio D'Andrea, spécialiste en sciences du climat au CNRS.
Déjà, c'est un ouragan très fort. Donc il atteint un peu le maximum qu'on a vu dans les ouragans, c'est-à-dire des rafales de vent qui arrivent à 240 km/h. Imaginez de mettre la tête dehors du TGV quand vous allez à 250 km/h. C'est un vent qui vous empêche même de rester debout. Il est spécial parce qu'il y a eu une intensification très rapide. Et il est spécial surtout parce que juin à juillet, ce n'est pas une période où on voit beaucoup d'ouragans. Normalement, ça commence plutôt à l'automne. On s'attend qu'il soit particulièrement fort pour deux raisons principales. Donc, la première est l'eau chaude, à l'Atlantique. Elle a été très, 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 très chaude dans toute l'année qui nous a précédé. L'autre raison, c'est la fin d'El Niño. Donc on pense que la saison risque d'être forte.
Explication de Fabio D'Andrea, recueillie par Arthur Baudin.
Aux États-Unis, le camp démocrate est toujours très ébranlé par le débat calamiteux de jeudi dernier.
Oui, tout le monde a vu Joe Biden, 81 ans, perdre pied face à Donald Trump. Les poids lourds et les parlementaires démocrates commencent à s'interroger publiquement sur sa capacité à se représenter le 5 novembre. Joe Biden, aujourd'hui, doit s'entretenir avec les gouverneurs démocrates du pays, selon l'agenda officiel de la Maison-Blanche. Nous aurons une saine discussion avec le président, a expliqué l'un de ses gouverneurs, JB Pritzker, élu de l'Illinois hier soir sur CNN.
Une page économique à présent. Après les États-Unis, c'est au tour du Canada de vouloir imposer des droits de douane sur les voitures électriques chinoises.
Oui, cette mesure devrait aussi concerner les batteries. Ottawa entend se prémunir contre les importations bon marché en provenance de Chine. Les précisions de Myriam Berber.
Aujourd'hui, les surcapacités industrielles chinoises représentent une menace pour les économies occidentales. Faute de demande intérieure, les entreprises chinoises cherchent des débouchés à l'étranger et écoulent leurs marchandises à prix cassé. Face à cette menace, le gouvernement canadien vient de lancer une consultation de 30 jours avec l'industrie automobile et les syndicats pour enquêter sur les pratiques commerciales déloyales de Pékin. Objectif, imposer des droits de douane sur les véhicules électriques et les batteries fabriquées en Chine. Le Canada suit l'exemple américain. En mai dernier, Washington a décidé de quadrupler les taxes sur les voitures électriques chinoises. Elles sont passées de 25 à 100%. L'Union européenne veut également se prémunir des importations automobiles chinoises. Bruxelles dénonce les subventions massives de Pékin à ses constructeurs et va imposer des droits de douane allant jusqu'à près de 40% dans les jours à venir.
Myriam Berber du service économique, économie toujours aux États-Unis. Les entreprises du secteur privé ont créé moins d'emplois que prévu au mois de juin. C'est conforme à une tendance observée lors des deux mois précédents. La France a 4 jours du second tour des élections législatives. Les candidats ont maintenant tous remis leur dossier en préfecture et il n'y aura pas de nouveau désistement. Au total, la gauche a retiré plus de 130 candidats et le camp présidentiel plus de 80, là où le Rassemblement national a de bonne chance de l'emporter dimanche. L'objectif étant d'empêcher à tout prix l'extrême droite de décrocher la majorité absolue des sièges à l'Assemblée. Pour Gabriel Attal, à l'issue de ces élections, le pouvoir sera soit aux mains de l'extrême droite, soit au Parlement. Le Premier ministre dit se battre pour le second scénario. Toujours en France, la mise en examen pour viol requise contre Benoît Jacquot. Le parquet de Paris a requis ce matin la mise en examen du cinéaste pour viol sur 2 actrices. Benoît Jacquot était en garde à vue depuis lundi à la brigade de protection des mineurs, de même que Jacques Doyon, autre cinéaste français. Ce dernier a lui vu sa garde à vue levée hier soir pour raison médicale.
Une nouvelle illustration de l'influence chinoise de la force des services de renseignement qui opère aussi en France, Gilles.
Oui, selon le journal Le Monde, 2 hauts fonctionnaires chinois en poste à l'ambassade à Paris sont visés par une demande d'expulsion du territoire émise par les autorités françaises. Les explications d'Eike Schmidt.
L'expulsion de 2 espions chinois doit envoyer un message clair à Pékin. Il faut que cesse la chasse aux dissidents sur le sol français, orchestrée ces derniers mois sans gêne par des agents de l'ambassade de Chine. 2 affaires intervenues autour de la visite d'État de Xi Jinping en France avaient mis le ministère des Affaires étrangères dans l'embarras. Le 22 mars dernier, la police aux frontières stoppe net la tentative de rapatriement forcé de Ling Huajian, un jeune chinois de 26 ans, recherché pour avoir publié sur les réseaux sociaux des graffitis contre le président Xi Jinping. L'autre affaire se déroule le 8 mai, en bas de l'immeuble dans lequel vit l'exilé ouïghour Gulbahar Jalilova, arrivé en France en 2020 après avoir été torturé dans un camp de rééducation du Xinjiang. 10 d'hommes habillés en noir sonnent à l'interphone et intimident Madame Jalilova, terrorisée. L'enquête prouve que des agents chinois ont été à la manœuvre. Aujourd'hui, 2 de leurs supérieurs sont priés de quitter la France.
Voilà pour les espions chinois. La France a aussi expulsé ce mercredi un Iranien soupçonné d'être un agent d'influence de Téhéran. Cet homme, Bachir Biazar, serait lié aux gardiens de la Révolution, l'armée idéologique du régime iranien. Au moins 6 personnes ont trouvé la mort dans les pluies diluviennes qui ont frappé le nord-est de l'Inde et du Bangladesh. En Birmanie, les secours sont à pied d'œuvre pour aider des milliers de sinistrés dans l'extrême nord du pays, région coupée du monde en raison de graves inondations. Enfin, plus de 240 000 habitants ont dû être évacués dans l'est de la Chine après, là encore, les fortes pluies qui se sont abattues sur cette partie du pays. Au Kenya, pays secoué depuis 2 semaines par une vague de contestation, la police annonce avoir arrêté plus de 270 personnes, la plupart dans la région de la capitale Nairobi. Elles sont accusées d'avoir commis des actes criminels, en particulier des pillages lors des rassemblements anti-gouvernementaux. Quant au bilan en vies humaines, il s'élève à au moins 39 morts et plus de 360 blessés depuis la première manifestation au Kenya. C'était le 18 juin. Allez, pour finir, le Tour de France. Aujourd'hui, 5e étape. Au lendemain de la démonstration de Tadej Pogacar dans le Galibier, qui lui a permis de reprendre le maillot jaune, le peloton retrouve aujourd'hui la plaine. Cette étape le mène de Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas, dans le département de l'Ain.
Merci Gilles Moreau. RFI Midi, suite et fin. L'actualité d'Haïti et des Amériques pendant les 20 prochaines minutes.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et je vous propose d'écouter d'abord l'entretien exclusif que nous a accordé Gary Conny. Le Premier ministre haïtien de transition s'exprime pour la première fois à la radio sur RFI de Washington où il est en visite. Le chef du gouvernement revient sur les efforts en cours pour rétablir la sécurité en Haïti, efforts de la police et de la force multinationale. Gary Conny parle également de ses ambitions et de ses espoirs. Il est au micro de notre correspondant Guillaume Nodin.
Bonjour Gary Conny.
Bonjour.
Vous avez été nommé il y a tout juste un mois. C'est votre premier voyage officiel. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher à Washington? Des appuis financiers, des conseils pour diriger Haïti?
Nommé depuis un mois, mais installé, ça fait à peu près 2 semaines. Et j'ai un gouvernement, ça fait un peu plus d'une semaine et demie à peu près. La démarche de Washington rentre dans le cadre d'un effort que nous sommes en train de faire pour regalvaniser dans une certaine mesure la communauté internationale autour du dossier haïtien. Un, pour rappeler la situation d'Haïti où 80% du territoire de la zone métropolitaine est contrôlée par le gang, où la moitié de la population est en insuffisance alimentaire, où nous avons des problèmes qui sont très très sérieux. Donc ça fait partie de la démarche que nous sommes en train d'entreprendre pour nous assurer que la communauté internationale continue à nous accompagner.
Vous avez promis que l'État haïtien reprendrait le contrôle des quartiers occupés par les gangs avec l'appui de la mission internationale de soutien à la police nationale haïtienne. Il y a un premier contingent de policiers kényans qui est arrivé la semaine dernière à Port-au-Prince. Combien sont-ils à ce jour sur le sol haïtien ?
Il y a à peu près 200, un peu plus que 200 dans le premier contingent et on s'attend à ce que dans les prochaines semaines, ce chiffre augmente de manière significative.
Oui, car 2500 policiers de la force internationale doivent arriver à terme. Quand est-ce qu'elle sera au complet ?
C'est un processus qui est en cours. Je préfère ne pas parler de date exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est que les partenaires haïtiens sont très engagés et sont en train de prendre toutes les dispositions pour que ça se fasse le plus rapidement que possible.
Oui, il y a des problèmes logistiques, des problèmes de logement notamment pour ces policiers kényans.
Ce genre d'opération en général, il y a toujours énormément de choses que nous devons résoudre, mais ce que moi j'ai vu et ce qu'on a compris dans les conversations que nous avons avec nos partenaires, c'est qu'ils comprennent bien l'urgence et ils sont très engagés à pouvoir offrir le support et l'appui qu'il faut pour que ça se concrétise.
Pour l'heure, ces policiers kényans notamment font quelques patrouilles, mais il n'y a pas d'opération d'envergure. Quand est-ce que cette force va commencer réellement à remplir ses missions ?
La mission de cette force est évidemment d'accompagner la police nationale qui n'a jamais cessé de faire des opérations. Donc le lead dans la reprise de ces territoires qui sont aujourd'hui occupés par les gangs, ça sera toujours la police et l'armée d'Haïti. Donc c'est nous qui allons décider à quel moment, dans quel contexte et comment cet accompagnement sera nécessaire ou à une valeur ajoutée. Évidemment, nous allons discuter avec eux pour voir comment est-ce qu'ils vont pouvoir nous aider.
2500 hommes pour appuyer une police qui est en sous-effectif. En face, on estime qu'il y a plusieurs milliers de membres des gangs. Est-ce que c'est suffisamment dimensionné?
Je pense qu'il y a 3 considérations. La première, c'est que la sécurité, ce n'est pas seulement une affaire de police. C'est une intervention qui doit être beaucoup plus complète. Et le succès de l'opération ne peut que se matérialiser. La pérennité de l'intervention ne pourra se matérialiser que lorsqu'on aura pleinement réconcilié la police avec la communauté. Donc nous, quand on envisage les efforts que nous sommes en train d'entreprendre, on a cette vision-là. Il nous faut vraiment renforcer la capacité de notre police. Et ce que ces contingents nous permettent de faire, c'est de nous appuyer en même temps que nous sommes en train de renforcer nos effectifs. On vient de graduer 455 policiers et des forces spécialisées. On va continuer à le faire de manière systématique. Donc, ce n'est pas une fin, l'accompagnement de la mission. C'est surtout, si vous voulez, un accompagnement bien spécifique et limité dans le temps, on l'espère, qui nous donne l'espace qu'il nous faut pour renforcer nos propres capacités.
Est-ce que cette lenteur relative du déploiement de la mission internationale de soutien, est-ce que cette lenteur permet aux gangs de s'adapter, de voir comment s'adapter à la force qui va leur être opposée, tout simplement.
Comme je vous disais tout à l'heure, la police nationale d'Haïti n'a jamais cessé de faire des interventions, n'a jamais cessé de protéger la population, évidemment avec les limitations que vous connaissez. Et donc, en ce sens, probablement, oui, je présume que les gangs sont en train de se positionner. Ça, je ne sais pas. Mais ce que je veux dire pour sûr, c'est que quel que soit ce qu'ils sont en train de faire, je vous assure que dans un délai pas trop lointain, l'État reprendra le contrôle de tout le territoire national.
Jimmy Cherizier, c'est un puissant chef de gang, qu'on en appelle barbecue. Il a fait savoir qu'il était prêt au dialogue la semaine dernière. Est-ce que vos équipes ont des contacts avec lui. Est-ce qu'on discute, quand on est le gouvernement d'Haïti, avec les gangs ?
Comme j'ai répondu à cette question il y a déjà quelques semaines, il faut d'abord déposer les armes et reconnaître l'autorité de l'État avant tout dialogue. C'est ça la première démarche. Vous déposez les armes, vous reconnaissez l'autorité de l'État et ensuite on verra.
Au-delà de la sécurisation du pays, l'économie, le système de santé sont à terre en Haïti, ils n'existent pratiquement plus. Plus de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Comment est-ce que votre gouvernement compte répondre à ces urgences ? Quelles priorités vous définissez ?
Le gouvernement de transition est en place sur la base d'un accord, qui est l'accord du 3 avril, et qui définit clairement les grands axes d'intervention et les priorités. Évidemment, il y a la sécurité, il y a la crise humanitaire, il y a les problèmes de corruption, entre autres, et certainement les élections. Nous venons de terminer 2 jours de retraite où les différents ministères ont complété des feuilles de route qui identifient très clairement comment nous allons avancer vers ces différentes priorités de manière organisée. Et justement, le but de cette visite, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que nos partenaires peuvent nous accompagner de manière très systématique dans la mise en place de différentes stratégies qui, à notre avis, devraient pouvoir aboutir. Je dois vous dire que, ce qui nous donne beaucoup, beaucoup d'espoir, c'est que au cours de ces dernières semaines, des partis politiques qui en général ne s'entendent pas ont pu arriver à un consensus pour construire un système de gouvernance qui a maintenant un conseil présidentiel de 9 membres. Ces 9 membres ont pu s'entendre sur un premier ministre. Nous avons pu mettre en place un gouvernement en 7 jours. La force est arrivée, la population a accepté plus ou moins cette formule transitoire. Écoutez, la communauté internationale est très mobilisée, beaucoup plus qu'elle ne l'était il y a quelques mois. Donc je suis assez confiant qu'avec cet accompagnement, nous allons pouvoir réussir.
Vous avez, Gary Conney, passé plusieurs années à l'étranger, dans la coopération internationale, avec les Nations Unies notamment. Si vous prenez un peu de recul, et je sais que c'est difficile, puisque vous êtes citoyen haïtien avant tout, comment est-ce que vous, d'un point de vue presque technique, professionnel, vous jugez l'état de votre pays aujourd'hui ?
La situation est excessivement complexe. Et ce n'est pas parce que, comme vous dites, ce n'est pas seulement parce que les gangs contrôlent la majorité du territoire, ce n'est pas seulement parce que nous avons, comme vous venez de dire, 4,5 millions de personnes en insécurité alimentaire. Ce n'est pas seulement à cause des problèmes de développement, mais c'est parce que, justement, il y a une faiblesse institutionnelle. Les instruments qu'en général un gouvernement se donne pour pouvoir approcher ces problèmes n'existent plus. Et en même temps, je dois vous dire que l'accompagnement que nous avons reçu jusqu'ici de la communauté internationale, à mon avis, mérite d'être revu. Mais ce que je crois fondamentalement pour avoir fait ce travail un peu partout à travers le monde, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité haïtienne. La deuxième chose, c'est que malheureusement, jusqu'à présent, la population haïtienne n'a pas encore eu un gouvernement qui reflète sa générosité, sa résilience et sa capacité de travail. La troisième chose, c'est qu'il nous faut le leadership et la vision qui est avant tout haïtienne. Et la quatrième chose, c'est qu'il faut un accompagnement qui est beaucoup plus durable et qui nous amène à terme jusqu'à la résolution de nos problèmes, ce qu'on n'a jamais eu jusqu'à présent.
Est-ce que vous allez pouvoir tenir le délai d'organisation d'élections d'ici à 2025, alors qu'il n'y en a pas eu depuis 2016 en Haïti ?
Nous sommes déterminés à le faire. Je pense que ceci est absolument indispensable. Il faut que nous puissions avoir le plus rapidement que possible un gouvernement élu, pas plus tard que le 7 février 2026.
Comment organiser des élections dans un pays qui compte à ce jour près de 600 000 déplacés internes et où il y a une méfiance sans doute d'une partie de la population pour des raisons de corruption que vous avez vous-même qualifiées d'enracinées, de mauvaise gouvernance enracinée ?
La première chose, c'est qu'il faut rétablir la confiance de la population dans ses institutions et la capacité de cette transition à pouvoir effectivement créer un environnement qui lui permette d'aller valablement vers les élections, ce que nous croyons pouvoir faire. Nous avons pu mobiliser des hommes et des femmes qui sont connus pour leur intégrité, pour leur capacité de travailler, pour leur professionnalisme et pour leurs compétences. Et nous allons continuer à le faire avec le CEP, nous sommes en train de travailler avec le partenaire et nous allons avoir un régime aussi, une conversation constante avec la population, énorme de transparence, on lui dira exactement ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas faire et on espère l'impliquer de manière constante dans ce qu'on est en train de faire et on espère que c'est comme ça qu'on va pouvoir arriver à terme.
Gary Conney, merci.
Merci à vous.
Entretien exclusif accordé par Gary Conney à RFI à notre correspondant à Washington durant son déplacement aux États-Unis et cette visite, bien sûr, elle est suivie de près par les journaux haïtiens que vous avez lus pour nous, Christophe Paget.
Oui, le Premier ministre, écrit le Nouvelliste, a été reçu par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a assuré Gary Conney du support des États-Unis. Avant cela, il avait rencontré le secrétaire général de l'Organisation des États américains ainsi que la directrice générale du FMI. Également au programme, une réunion avec l'USAID et l'Inter-American Foundation. Toutes ces rencontres, analyse le National, sont un pas important pour le Premier ministre pour renforcer les coopérations avec certains partenaires internationaux. Le quotidien rappelle que la Banque Inter-Américaine de Développement a annoncé que 40 millions de dollars allaient être accordés à Haïti dans les plus brefs délais, ajoute Juno 7, qui précise que Gary Conney a également sollicité la BID pour élaborer et proposer une stratégie à moyen terme au bénéfice de la population haïtienne, similaire à celle mise en place en 2010.
Ce voyage de Gary Conney, Christophe, crée aussi des frictions.
Selon le Nouvelliste, le Conseil présidentiel de transition digère mal le fait que le Premier ministre aurait quitté le pays pour une visite aux États-Unis sans avoir au préalable défini avec le Conseil ses éléments de langage face aux partenaires internationaux. Gary Conney a indiqué au Nouvelliste avoir discuté de son déplacement avec les membres du Conseil. Une source du quotidien au Conseil présidentiel de transition dit n'avoir reçu un message WhatsApp du Premier ministre informant de ce déplacement aux États-Unis que quelques heures avant son voyage.
On en parlait dans le journal tout à l'heure, Christophe, l'ouragan Beryl se renforce.
Attention cyclone, titre le Nouvelliste. En l'espace de 24 heures, écrit le National, Beryl s'est intensifié pour devenir un ouragan de catégorie 5 dans la soirée de lundi. Alter Press dresse un premier bilan, 3 morts au Venezuela, 3 à la Grenade, une victime à Saint-Vincent et les Grenadines et des dégâts considérables. Beryl doit toucher aujourd'hui la Jamaïque. Puis cette nuit, les îles Caïmans. En ce qui concerne Haïti, la presqu'île du Sud est en état d'alerte orange. Les départements du Sud, du Sud-Est, de la Grand'Anse, détaille le Nouvelliste. Même si Beryl ne passera pas directement en Haïti, mais à 250 km de la côte sud, expliquait hier l'unité hydrométéorologique d'Haïti, l'ouragan reste catastrophique et peut ravager toutes nos infrastructures. La saison cyclonique ne fait que commencer, écrit Franz Duval dans son éditorial. Les conditions sécuritaires entravent la coordination des secours et même la prévention des risques. Il faut que chaque citoyen soit prudent et attentif.
RFI, The World's Voices.
Il est 9h22 à Washington. Retour aux États-Unis pour parler de politique intérieure. Cette fois, le camp démocrate ne s'est toujours pas remis du débat télévisé entre Joe Biden et Donald Trump la semaine dernière. De la prestation catastrophique du président qui paraissait complètement perdu par moments. Les jours passent, Christophe, mais l'inquiétude ne diminue pas.
D'autant que ces derniers mois, selon les personnes consultées par le New York Times, les absences de Joe Biden sont de plus en plus fréquentes, prononcées et inquiétantes. Joe Biden, de son côté, justifie son débat raté par un calendrier de voyage chargé. « J'ai failli m'endormir sur scène », explique-t-il, repris par The Hill. Pour Politico, c'est juste sa dernière excuse en date, qui est loin de convaincre tous les démocrates. Selon le Wall Street Journal, l'unité affichée dans les jours qui ont suivi le débat est en train de se fissurer. Et le premier coup dans le barrage destiné à protéger le président a été porté par le Texan Lloyd Doggett, qui a été hier le premier représentant démocrate au Congrès à lui demander de se retirer de la course à la présidentielle. C'est à la une du Houston Chronicle.
Le premier à aller aussi loin, mais il n'est pas le seul à exprimer des interrogations. Une figure démocrate a aussi pris la parole. L'ancienne présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a fait part de ses doutes. Écoutez.
He has a bad night. Il a eu une mauvaise soirée, mais je pense qu'il est légitime de se demander est-ce un épisode ou un état permanent. Donc quand les gens se posent cette question, c'est légitime. Et pour les deux candidats, les deux candidats se doivent de faire n'importe quels examens que vous voudriez leur faire passer en termes d'acuité mentale et de santé. Les deux candidats.
Et dans la presse, Christophe, on voit de plus en plus d'appels au retrait de Joe Biden de la course à la présidence.
C'est le moment de changer de dirigeant, affirme dans le Washington Post un candidat démocrate à la Chambre. Il n'est pas trop tard pour remplacer Biden et battre Trump, affirme dans Politico un ancien conseiller de Barack Obama. Les dirigeants de Washington sont trop vieux, arrêtons de voter pour eux, conclut un éditorialiste du Boston Globe qui parle là aussi bien de Donald Trump que de Joe Biden.
Oh, mais si Joe Biden laisse sa place, alors par qui le Parti démocrate pourrait-il le remplacer ?
Selon un sondage CNN repris par The Hill, sa vice-présidente Kamala Harris atteindrait 2% de votes supplémentaires que le président. Pour un éditorialiste du Washington Post, ce serait le choix le moins mauvais pour le Parti démocrate. Mais Kamala Harris est sur une toute autre ligne.
Joe Biden is our nominee. We beat Trump once and we're going to beat him again.
Joe Biden est notre candidat. Nous avons battu Trump une fois et nous allons recommencer. Point final. Je suis fière d'être sa colistière. Voilà, pas d'hésitation pour Kamala Harris.
Oui, et puis de toute façon, estime Politico, choisir Kamala Harris, ce serait nier la volonté de millions de personnes qui ont voté aux primaires, mettre sans dessus dessous un processus de nomination qui est la norme depuis des décennies. Et puis ce serait aussi la voie la plus courte vers la division et les rancœurs. Fin de citation.
Christophe Paget pour la revue de presse.
Le journal de l'Outre-mer.
On vous retrouve, Oda Naji Ali, pour faire le point sur l'actualité des Outre-mer. Et on va d'abord parler des nombreux dégâts matériels après le passage de l'ouragan Beryl.
Oui, quasiment toutes les communes littorales de Martinique mobilisées pour dégager les voies d'accès, aider les riverains. 48 heures après le passage de l'ouragan au large de l'île, il faut aussi nettoyer les commerces inondés, notamment à Fort-de-France sur la côte Caraïbe. Et du côté de la mairie, on réfléchit aussi déjà à un réaménagement du front de mer pour éviter de nouvelles inondations. Didier Laguerre, le maire de Fort-de-France avec Bianca Carreto.
On a protégé la ville des inondations en endiguant les rivières, en faisant des caniveaux. On a fait le Malécon qui est une digue de protection contre la houle. Il faut qu'on passe à un stade suivant de protection des bâtiments eux-mêmes, comme ce qui se fait dans certaines villes côtières en Hollande, de façades étanches qui puissent être positionnées pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui rentre dans les bâtiments. Et donc pour améliorer le niveau de protection face aux événements climatiques, personne ne s'attendait à ce que la mer arrive jusqu'à la cathédrale. Ça, c'est des choses qu'on a vues à l'époque où il n'y avait pas le Malécon, où il y avait un muret entre la mer et la chaussée.
En Guadeloupe, la famille de Claude Jean-Pierre ne baisse pas les bras. Claude Jean-Pierre, c'est ce sexagénaire décédé en décembre 2020 à l'hôpital après son interpellation musclée par deux gendarmes à Dée. Lors d'une conférence de presse hier, sa famille a dénoncé la lenteur de la procédure, a sollicité aussi une nouvelle audition des deux gendarmes, aujourd'hui placés sous le statut de témoin assisté. La fille de Claude Jean-Pierre, Fatia Alcabellar.
Aujourd'hui, ça fait bien plus de 3 ans, malheureusement, qu'on se bat aux côtés de nos avocats, aux côtés de nombreux militants qui nous donnent la force, parce que c'est un crime aujourd'hui. On n'a pas peur des mots, c'est un crime aujourd'hui qui reste impuni. On a deux individus, les gendarmes Charlier et Boyer, qui ont ôté la vie de mon père. Ces deux personnes ont le statut de témoin assisté. Témoin assisté, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a assisté à la scène, qu'on est témoin, pas forcément responsable, alors que la vidéosurveillance de la ville de Dée montre clairement la culpabilité de ces deux personnes. On a deux personnes qui extirpent un homme de plus de 60 ans d'un véhicule, un homme qui était calme, qui ne montrait aucune agressivité, et cet homme va ressortir inerte de son véhicule. Le seul geste de secours, ça va être un chapeau de paille qui va lui être posé sur la tête et ce chapeau maintenu avec un pied. C'est pour montrer la déshumanisation. Ces deux gendarmes ne sont toujours pas mis en examen.
Des propos recueillis par Peggy Robert de Guadeloupe, la première. Et puis c'est l'événement sportif incontournable de l'année en Martinique. La 38e édition du Tour de Martinique en yole ronde, sauvée, annonce du maire de la commune du François. L'incertitude planait ces derniers jours sur la tenue ou non de la compétition. Après les révélations des difficultés financières traversées par la Fédération des yole rondes. Fédération qui devrait livrer plus de détails tout à l'heure lors d'une conférence de presse. À demain Anne.
À demain, Oda Naji Ali pour l'actualité des Outre-mer. On va se quitter en musique avec le Brésilien Tagua Tagua. Voici le morceau Mesmo Lugar. Tagua Tagua sera en concert ce soir à Rio.
Até ruir, até sangrar, até curar, até cair, até desmoronar. Até voltar, até dele. E ele vem e volta, e volta no mesmo lugar. Parece até que sabe onde chegar. Andou dizendo que o agora é tão diferente. E a vida vai passando pela frente.
Et c'est ainsi que se termine RFI Midi, réalisé aujourd'hui par Vincent Biteau. On vous donne tous les deux rendez-vous demain, 11h, temps universel. Mais vous restez sur RFI dans un peu plus de 30 secondes maintenant, de vive voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée à tous.
La vie
RFI Planète Radio, en partenariat avec l'Institut de Recherche pour le Développement, lance l'édition 2024 du concours vidéo Hip-Hop.
Prenez vos smartphones et captez le ressenti des femmes et des hommes qui affrontent les conséquences des changements environnementaux et climatiques dans leur localité. Participez aux formations en ligne et envoyez vos vidéos de 3 minutes maximum à concours.epop.network.
Vous avez jusqu'au 12 septembre pour tenter de gagner des bourses de production et des diffusions dans de grands festivals européens. À vous de jouer, on est toujours ensemble avec Hip-Hop.